La main verte d'Alain Baraton. Bonjour mon cher Alain.
Bonjour mon cher
Et moi Karine, j'adore ma chère
Karine. Alors moi c'est Karine et lui c'est Eric.
Bonjour. L'émotion de vous retrouver ce matin, que voulez-vous.
Une question pour commencer Alain. Existe-t-il vraiment une différence entre un gazon et une pelouse?
Voilà, et là il faut bien écouter.
Alors.
Pour répondre mieux à cette question, j'ai d'abord ouvert le Larousse, au moins on fait dans le sérieux.
Mmh.
Pelouse, terrain couvert d'herbes maintenues rases par des fauches fréquentes ou herbes qui couvrent ce terrain. Gazon, herbe maintenue dense et rase. Alors, la différence n'étant pas évidente, j'ai consulté les traités de botanique. Le gazon est constitué d'herbes courtes et menues, tandis que la pelouse est un sol recouvert par une herbe rase mais épaisse.
Bref, c'est toujours aussi compliqué de faire la différence.
Donc j'ai tenté quand même d'être clair et précis. Une pelouse est un espace couvert d'herbes fauchées ou tondues, alors qu'un gazon est un espace artificiel en totalité où rien n'est laissé au hasard, comme le choix des graines. Il a été semé et le maintien ou non de certaines graminées. Donc pour faire simple, un gazon a été vraiment fabriqué. Quand vous laissez l'herbe pousser et que vous tondez, c'est une pelouse. Alors c'est pour cette raison que les plus beaux gazons, les gazons anglais, ne sont pas appelés des pelouses. Et c'est donc pour cela que furent inventées les tondeuses à gazon. Remarquez qu'on ne dit jamais tondeuse à pelouse.
Mais c'est vrai. Et depuis quand elles existent, ces tondeuses, tiens?
Là, je vais vous étonner, Karine.
Allez-y.
Depuis 1830.
Ah oui?
Oui, et elles ont cessé depuis de s'améliorer. Elles sont devenues motorisées en 1902 et atteignent parfois des vitesses surprenantes. Le record du monde de tondeuses date de 2021 et il est détenu par Tony Edwards qui a atteint sur la piste de l'aérodrome d'Evington Airfield la vitesse de 230 km/h.
Oui, d'accord, il était pantin de tondeuse à ce moment-là.
Non, il faut mettre un casque.
Non, il ne tondait pas, mais il pilotait une tondeuse.
Bon.
Christian, à propos de ces 5 figuiers sauvages, sur les 5, un seul cette année a déjà fait des fruits en devenir, mais toujours pas de feuilles. Alors, merci de vos lumières, Alain Baraton, je ne trouve aucune réponse sur Internet.
C'est pas simple. Réponse difficile parce que le figuier est l'une des plantes les plus complexes à expliquer. Déjà, là encore, on en parle depuis pas mal de temps, le froid tardif, la chaleur prématurée a fait que les feuilles ont eu du mal à sortir et parfois même des feuilles de figuier ont gelé. Faut rappeler le terme des fleurs qui apparaissent avant les feuilles, c'est le mot protérante. Eh bien, il s'avère que là, nous avons affaire à une situation de protérante, à savoir que les fleurs sont apparues avant les feuilles. Vous me dites, les fleurs, je comprends pas les figues. Oui, parce qu'il n'y a pas de fleurs sur les figues. Les figues, les fleurs sont dans le fruit, le figuier. C'est donc très complexe.
Effectivement, le fruit arrive en même temps que les feuilles.
Oui.
Alors moi, ce qui est étonnant, c'est que les feuilles sont arrivées tout de suite cette année.
Oui, tout à fait.
Alors que les fruits sont déjà en train de tomber.
Parce que la plante, elle, pour développer ses feuilles, ses bourgeons, en un mot, pour pousser, se fie à la luminosité et à la température. Comment voulez-vous qu'un végétal qui supporte un moins 10, moins 15 en mars, un 20 degrés 15 jours plus tard et un regel quelques temps plus tard, puisse s'y retrouver? Tous les repères sont perturbés, donc la plante est un petit peu déboussolée. Quand on sait qu'en plus, il y a un problème de commandement entre l'extrémité du végétal qui est en contact avec l'air et les racines qui, elles, ne subissent pas les variations de température, la plante est complètement déboussolée.
Et donc, qu'est-ce qu'on dit à Christian? Il n'y a rien à faire,
là, il y a rien à faire. La logique voudrait que la nature se rétablisse d'elle-même, mais c'est peut-être l'occasion pour tailler un peu le figuier. Je rappelle que le figuier peut se tailler. N'hésitez pas à le réduire court si besoin.
Et l'avantage... Mais pas en ce moment.
Non, pas
à l'automne.
Oui, à l'automne ou en hiver. On évite maintenant de trop toucher le végétal. Mais à propos, vu que je parle beaucoup de froid, je rappelle une règle d'or. On ne taille jamais, je dis bien jamais, quand il gèle.
À propos, à présent, de la rouille du genévrier. Comment traiter cette rouille? C'est quoi d'ailleurs?
Oh, c'est une maladie fongique.
Donc champignons.
Voilà, on l'appelle la rouille grillagée. Mmh. Ce sont des champignons de couleur orange qui se mettent sur ce conifère, car le genévrier est une conifère. Et là, je parle de peste végétale. Car si cette rouille se contentait de détruire quelques pieds de genévrier, c'est pas très grave. Mais elle s'attaque aux rosacées. Les rosacées, c'est une famille qui contient en particulier les pommes ou les poires. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais planter de genévrier dans un verger. Que faire? Eh bien là, vous coupez tout de suite les parties contaminées. Vous les évacuez sans attendre. Quand je dis évacuer, ne vous baladez pas non plus dans le jardin. Je le vois de temps en temps. Je suggère de couper les branches qui sont contaminées. Alors on voit le jardinier qui les prend, puis il les porte sur l'épaule. Et... Non.
Et il les met au bout de son jardin.
Oui, mais les spores tombent bien entendu partout sur la pelouse et peuvent favoriser la dissémination. On met en sac poubelle, on évacue très rapidement. Et si le végétal est vraiment contaminé, on ne perd pas son temps, on le supprime. De temps en temps, malheureusement, Eh ben, y a pas grand chose à faire. Là, j'étais tenté de cette chanson que j'aime bien citer sur cette antenne, Contre la rouille. Eh ben, dans ce cas précis, il y a vraiment rien à faire.
Maxime Le Forestier. Françoise a un albizia planté il y a 2 ans. Il est bien parti, mais il y a une énorme fourmilière à ses pieds. Est-ce que ça peut l'empêcher de grandir?
Oui, pour 2 raisons. La fourmilière a creusé les galeries qui mettent les racines en contact avec l'air, donc les racines sèches, c'est pas très bon, mais surtout les fourmis, qui sont de terribles petits insectes. Une étude.
Mais vous êtes pas très sympathique avec les fourmis en général.
Une étude, Karine, éditée il y a quelques années par des scientifiques, je crois, anglais, ont montré que dans une fourmilière, sur 100 fourmis, 33 faisaient un travail remarquable, 33 ne faisaient rien. Et 33% faisaient un travail qui ne servait à rien.
Vous voyez, donc ça fait 2 fois 33 qui servent à rien.
Qui servent pas à grand chose.
C'est-à-dire qu'il y en a qui ne font, non, mais il y en a qui ne font vraiment rien. Il y en a qui perdent leur temps. Et les fourmis qui se mettent au pied d'un albizia n'ont qu'une idée. Attirer quantité d'insectes pour qu'elles aillent se nourrir de la sève. Je parle des pucerons. Et ensuite, tirer leur lait pour les utiliser un petit peu comme des bovins.
Mais comment on se débarrasse des fourmis? Parce qu'à part utiliser les petites boîtes...
Alors on dérange, j'aime pas quand les fourmis,
j'imagine.
C'est quand même sympathique.
Ah.
Donc on les dérange, d'accord. S'il y a une fourmilière, on la recouvre, on donne un coup de griffe. En un mot, la fourmilière va se déplacer. Les insectes ne sont pas bêtes, ils s'installent là où ils sont confortablement tranquilles. Si vous les perturbez, ils vont ailleurs. Et encore le jet d'eau, j'aime bien l'idée du jet d'eau. Mettez un coup de jet d'eau sur une fourmilière, vous verrez qu'elles ne vont pas beaucoup aimer.
Allez. Et on termine avec un dernier conseil pour ce dimanche.
Oui, c'est la 28e édition du Jardin à l'Assiette. C'est à 1 heure de Paris, dans l'un des plus beaux villages de France qui s'appelle La Roche-Guyon. Il y a un château, il y a un jardin. Eh bien, c'est l'occasion de rencontrer pour cette 28e édition des professionnels qui vont vous parler de fruits, de plantes comestibles. Vous allez voir des pépiniéristes, des amateurs, des passionnés. C'est donc aujourd'hui. Prix d'entrée, je le dis, je le donne rarement, 7 euros au moins, prévoyez la monnaie. Gratuit pour les moins de 18 ans. Mais hey, c'est quand même... Elle est belle, la vie.
Elle est belle. Les bons plans d'Alain Baraton et sa main verte. Merci, Alain.